Interview BO par Benoît Bazerico.
Je suis avec Pierre Desprat, compositeur du film Conan de Bertrand Mandicot. Alors vous retrouvez Bertrand Mandicot après un premier long métrage, Les Garçons Sauvages et After Blue en 2022. Alors sur Les Garçons Sauvages, en fait vous étiez intervenu à la fin de la post-production du film. Qu'en est-il de ce nouveau film Conan ?
Depuis After Blue, on essaye de travailler le plus en amont possible, de préparer des pistes musicales, des réflexions, des recherches plus ou moins abouties pour alimenter le tournage et pour qu'il y ait une matière qui soit prête au montage. Comme d'habitude, les films de Bertrand sont entièrement post-synchronisés, donc une fois le tournage terminé, sur le banc de montage, c'est une matière sonore un peu brute, et donc pour faire advenir les scènes, c'est quand même toujours assez positif d'avoir de la musique pour créer de l'émotion. Du coup, sur ce film, j'ai travaillé en amont, mais bizarrement, la musique a été montée assez tardivement. Ça a été un temps de recherche un peu différent d'After Blue. After Blue, Bertrand diffusait de la musique sur le tournage, les choses se sont trouvées très vite. Là, sur ce film, comme il y a plusieurs époques, on traverse 5 époques, donc il y a 5 esthétiques différentes, j'imagine que je pouvais pas être sur tous les fronts en même temps, et donc du coup, j'en ai trouvé certaines, mais toute la musique n'était pas de suite montée. Ça a mis plus de temps avant d'arriver sur le banc de montage.
C'est un film foisonnant autour de l'image de la barbarie, autour du personnage de la barbare qui prend différentes formes dans le film. Et donc, on traverse les époques, on traverse les décors, les géographies. Est-ce qu'il était question aussi pour la musique, du coup, de convoquer différentes couleurs? Il y a différentes instrumentations, que ce soit des percussions, de la harpe, de la flûte.
Évidemment, on a placé comme ça des balises théoriques. Il y a une époque imaginaire un peu sumérienne, antique, où on avait envie de jouer avec tout un tas de codes de l'ethnomusicologie qu'on peut trouver dans le cinéma italien, chez Nino Rota et la BO du Satyricon par exemple. C'est un peu, voilà, d'imaginer cette période, donc de travailler avec des sitars désaccordés, d'essayer de trouver plein de flûtes, de taper sur un peu tout ce que je trouvais pour fabriquer une musique traditionnelle d'une époque qui n'a jamais existé, puisque c'est un récit d'héroïque fantasy, quoi. Donc voilà, je convoquais des souvenirs de mon passé lointain, un mélange entre les bandas du sud-ouest, des émotions très fortes que j'ai pu ressentir en entendant des flûtes pygmées, de la musique libanaise, des flûtes d'Algérie, et un peu comme Pasolini, mélange plein de références pour imaginer une époque antique qui n'existe pas dans Médée. On a essayé de prendre un peu ce procédé dans la composition pour cette première époque. Mais ensuite, il y a 4 autres époques. Il y a une époque dans le New York des années 98, donc on est parti sur une idée des codes du hip-hop new-yorkais, le boom-bap des années 90, qui est pas forcément l'esthétique première de Bertrand, mais c'était assez chouette d'explorer ces codes-là avec lui. You can fix her, Mr. Fix and Miss, you can fix her. Duh. Be a thug, pop, pop, crush a dun, dum, dum, spitting on your mask, watching on your bed, pop, pop, ass, pop. travaillé avec une chanteuse assez incroyable qui s'appelle Kelly Rose, qui chante dans un groupe qui s'appelle Bizifreya. Il y a toute une époque de guerre avec Conan 45 où on avait envie de travailler des sonorités très synthétiques, un peu comme la musique japonaise des années 80, des sonorités de percussion, OTX7, quoi, des choses précises et froides. Voilà, on a essayé de baliser comme ça des points d'esthétique pour chaque période. Mais évidemment, comme à chaque fois avec Bertrand, une fois que la théorie est mise en place, lui adore arriver et venir un peu rebattre les cartes. Même si le procédé se sent encore, il y a quand même des esthétiques qui s'interpénètrent et on entend de la musique électronique et synthétique très tangérine dans l'époque sumérienne. Il y a des relents antiques à New York. Disons que les époques s'interpénètrent.
Ça s'interpénètre parce qu'il y a à la fois, comme on vient de l'entendre, donc cette idée de correspondre aux différentes époques, et en même temps, par exemple, en 45 pour la guerre, ils ont des smartphones. Donc il y a comme ça des mini-anachronismes, et finalement la musique permet aussi de convoquer ces anachronismes.
Ouais, clairement.
Et en termes de placements musicaux, par exemple Bertrand Mandicot, vous lui faites une musique pour une scène. Pour les garçons sauvages, par exemple, il lui arrivait très souvent de déplacer les musiques initialement prévues. C'était le cas aussi dans ce film ?
Un peu moins, parce que justement, l'esthétique et ce vers quoi on était tendu pour les périodes faisait que c'était moins possible de les déplacer. Par contre, il est resté toujours assez maître de la position musicale et de pourquoi elle apparaît. C'est-à-dire que je reste toujours dans une position où je suis à la fois très libre et mis en avant avec une place de choix laissée à la musique. Et en même temps totalement dirigé, parce que l'univers de Bertrand est bien à lui, très précis, et fabriqué au final toujours un petit peu par ses mains, quoi.
Donc l'interprétation était moins dans un déplacement de placement que dans le glissement finalement anticipé dans l'écriture même de la partition.
Ouais, ce côté cinq époques et une grande variété esthétique fait que sur ce film, j'ai l'impression qu'on a travaillé plutôt sur un modèle de librairie. Finalement, plus que d'une partition avec une logique thématique, même si moi, mon idée, c'était quand même d'arriver à tracer un fil narratif qui pouvait traverser les époques, mais le mode de travail était plutôt celui de la librairie, à savoir, lorsque Conan 55 apparaît et ouvre ses ailes, il nous faut un morceau des années 60 qui peut sonner comme du Platters, du Scott Walker, quelque chose avec une voix un peu crooner, un peu lascive. J'avais comme ça une esthétique pointée du doigt. Il faut un morceau de rap des années 90. Il faut quelque chose qui soit synthétique. Et je me guide un peu comme un Scorsese ou un Tarantino pioche dans une librairie pour fabriquer sa séquence, parce qu'il a un type de rythme en tête, une esthétique qu'il associe peut-être à quelque chose de son passé, ou je participe à la libre association esthétique de Bertrand.
Cette idée de librairie, est-ce que justement il était question de la part de Bertrand Mandicot de faire un peu comme une commission de course, c'est-à-dire qu'en faisant sa liste de besoins de librairie, et est-ce qu'il était question aussi de références précises justement dans cette liste ?
Il y en avait quelques-unes, pas beaucoup. Donc, finalement, c'est pour ça que j'essaie d'intervenir le plus tôt possible, c'est que quand j'ai commencé ce métier finalement un peu avec les garçons sauvages, la confrontation avec les références était moins usante. Et là, au fur et à mesure des films, je commence à mesurer aussi ce que ça peut avoir de bloquant. Donc du coup, j'essaye de travailler le plus en amont, mais il reste quand même des références précises, et parce que parfois, c'est quand même un maître étalon très intéressant. Donc il y avait un morceau de Paul Anka, Destiny. You are my destiny. Ouais, ça fait ça.
Ah oui.
Il y avait un morceau du Wu-Tang Clan, Cream. un morceau de Morricone avec des chants d'enfants. On retrouve ce côté chant d'enfants à la fin du film sur un shooting photo et une fusillade. Chant d'enfants que je fais moi-même. C'était un grand spectre, quoi.
Ouais.
C'est un grand spectre. Et donc, demander à une personne d'investir le chant du hip-hop, de la musique orchestrale, de la musique synthétique, des tubes FM des années 50 ou 60 et de la musique ambiante japonaise des années 80, ça pouvait être parfois un peu vertigineux et un peu troublant. Mmh. Donc c'est pour ça que sur ce film, je me suis senti très dirigé, quoi. Il fallait un peu s'abandonner et se dire je suis la direction et j'essaye de maintenir comme ça un fil narratif qui traverse les époques.
Évidemment, quand on pense au Conan de Mandico, on pense au Conan de John Milius avec Schwarzenegger et à la partition de Basil Paul Douris. J'ai l'impression que ça n'a jamais été une référence, justement, ce premier film.
Absolument pas, non. Désolé, Basil, je me rappelle plus de la musique.
Vous l'avez pas revu et réécouté à l'occasion?
Non. Non, parce que je pense que c'est un film complètement discutable. Je pense qu'il n'était pas question, en tout cas, de faire un jeu de miroir avec le film. Et le film lui-même convoque la figure de Conan sans jamais convoquer un plan ou un élément précis du film. On ne retrouve pas l'arme, on ne retrouve pas un vêtement, on ne retrouve pas un personnage, il n'y a pas de clin d'œil. La seule question, c'est plutôt de jouer avec l'imagerie fasciste que porte Conan le Barbare, quoi, qui est un film masculin, hyper violent, qui glorifie l'héroïsme du fait de ne pas avoir de cœur, quoi. Mmh. Et donc, toute la trajectoire du film de Conan le Barbare tourne autour de cette question de qui a un cœur, où il se trouve, et qu'est-ce que c'est un geste barbare, quoi. Particulièrement par ces temps troublés où on entend parler de monstruosité, de barbarie en permanence, sans réellement savoir qu'est-ce que ça peut être la vraie barbarie, quoi. Qui en est le dépositaire du sens, en fait? C'est plutôt ça la question, c'est pas la quête de savoir qui est la barbarie, c'est plutôt de savoir quelle est la structure de pouvoir qui détermine ce qui est barbare et ce qui n'est pas barbare. Et donc du coup, le film de Milius ne faisait pas office de réservoir à clin d'œil, quoi.
Sur Garçon Sauvage, que vous n'écriviez pas la musique, mais vous la fabriquez. Est-ce que aujourd'hui, après plusieurs autres films, entre-temps, vous restez sur cette même formule?
Ouais. J'apprends toujours plus dans l'écriture, parce que j'apprends mon métier en le faisant. Mais ce qui reste central, c'est le corps, quoi. Je sais pas, en regardant une partition, ce qui sonne bien. Par contre, je sens, en faisant vibrer un instrument, que l'émotion est juste. Ça reste mon gouvernail, quoi. Donc, il faut jouer la musique. Il faut la jouer. Il faut la sentir pour savoir si ça va dans le bon sens. Ce qui est du coup parfois un petit peu contraignant parce que, bah, évidemment, je suis un peu multi-instrumentiste, mais je suis absolument virtuose de rien. Et puis parfois, il faut quand même avoir un toucher, un son pour atteindre une émotion particulière. Donc, le carrefour où je suis, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre la manière dont on peut fabriquer de la musique en la jouant et en l'entendant, en la laissant vibrer, et arriver à collaborer et trouver des modes de collaboration à l'intérieur de cette industrie qui nous permettent de jouer ensemble sans passer de suite par l'écriture.
Dans cette idée de fabrication, en jouant vous-même toutes les parties instrumentales, finalement l'idée de maquette n'a pas lieu dans la mesure où il n'y a pas vraiment d'instruments virtuels que vous mettez en maquette. J'ai l'impression que c'est directement des instruments que vous jouez.
Bah, même les instruments virtuels, on les joue. Mmh. Et les instruments virtuels, ça reste des instruments, quoi. Ça, c'était un des premiers trucs qui m'avait frappé avec les Garçons Sauvages, quoi. C'était à la fois la prouesse technique de l'échantillonnage et des banques de sons. Ils pouvaient nous mettre sous un ou deux doigts des qualités d'orchestre dingue ou des solistes complètement fous qui avaient été échantillonnés. Et en même temps, le fait que du coup, ben, c'était aussi la disparition d'une forme de spécificité et qu'il allait bien falloir la reconstruire à un autre endroit, quoi. Donc du coup, c'était déjà, même s'il y a un orchestre, il va falloir lui donner une spécificité. En fait, il faut s'approprier les outils. Et donc la maquette existe peu, et d'ailleurs, en général, il se passe cette chose que je fais une maquette qui est déjà assez produite. Parfois, j'essaye de faire d'autres versions pour aller un peu au bout des choses, voire enregistrer des instrumentistes, et au final, on me demande de retourner en arrière parce que peut-être que le souvenir de la découverte de la première maquette, malgré une production peut-être plus pauvre, et rester gravé comme ça dans le souvenir du réalisateur ou de la réalisatrice, ou peut-être dans le souvenir de la table de montage de l'ordinateur qui a été imprimé, je sais pas.
Dans Conan, il y a Elina Lovensen qui finalement est cette voix de ce personnage principal, mais qu'on entend davantage en termes de voix que en termes de visage, hein, voilà. Elle était déjà présente dans Les Garçons Sauvages avec une voix, puisqu'elle chantait la fameuse chanson du générique de fin Wild Girl. Est-ce que la voix ici de Elina Levenson a pu aussi interpénétrer la musique? Est-ce qu'il y a eu un jeu entre les deux?
Dans l'ensemble, il n'y a pas de morceaux musicaux avec sa voix. Il y a New York, il y a une séquence que je trouve particulièrement émouvante. Je trouve les actrices sont assez ouf. Et donc, c'est un moment où Conan 35 retrouve un peu sa mémoire, quoi. Elle se rappelle du terrible pacte qu'elle a passé avec Rainer. Donc, la mise en scène est super belle et c'est un underscore assez léger avec un tout petit thème. C'est très ténu, c'est sur un fil. Quelque chose qu'il n'y a pas souvent dans le cinéma de Bertrand, au final, où on a plutôt tendance à vouloir lâcher les chevaux. Et là, on est sur un fil et je sais pas, je trouve ça assez émouvant. Et là, clairement, c'est guidé par la voix d'Elina, mais aussi de Sandra Parfait, qui joue Conan 35. On est guidé par la voix des actrices. De toute manière, on est guidé par Elina. Hein. Elina, c'est mon phare dans les films de Bertrand.
Et puis il y a aussi les chansons, donc vous l'aviez dit, la rappeuse Kelly Rose.
Kelly Rose, ouais.
Voilà, avec trois chansons avec elle pour la partie new-yorkaise du film. Et puis il y a aussi la chanson interprétée par Bara Carlotti, écrite par Mandico lui-même. Comment c'est apparu, cette chanson?
Bertrand avait en tête ce morceau de Paul Anka. Et donc moi je leur disais, je peux pas péter plus haut que mon cul, on est quand même sur un monsieur qui est un des plus grands vendeurs de disques, qui a une voix exceptionnelle. Et qui écrit des tubes, et des tubes qui ont une existence. C'est-à-dire, la question de la référence, c'est pas que celle de arriver à créer un morceau qui soit à la hauteur. C'est que la référence, elle a une existence toujours dans le monde réel. Elle a une temporalité, quoi. C'est un morceau qui habite les gens. Et quand on fait advenir dans un film, il réveille quelque chose d'extérieur au cinéma. Et voilà. Donc, du coup, j'étais plutôt partant pour que la production essaye d'avoir les droits, mais... Le budget étant très limité sur le cinéma de Bertrand parce que c'est difficile à financer et que ce sont des films qui sont quand même assez coûteux à cause de la pellicule et des décors. Je me suis retrouvé à écrire ce morceau et Bertrand s'est lancé dans un texte en anglais. Et comme il est ami avec Barbara, qu'on avait déjà enregistré pour After Blue, on a fait une petite session d'enregistrement où elle fait la soliste et elle flirte avec Paul Anka. I am alone, it's misery. I am unlucky for eternity. Need love to die with dignity. I have no one to love me. Just a lover with a dark head. Just a lover without a heart. I want to leave all these horrors. I want to live with a nose.
Ouais, c'est joli parcours comme ça, d'une référence pas possible, et hop, ensuite on arrive à quelque chose d'original et qui finalement, je trouve, est beaucoup mieux que s'il y avait eu Paul Anka finalement, parce que ça, voilà, cette chanson finit par appartenir au cinéma de Mandico.
Je suis très heureux d'entendre ça, c'est ce que j'espère, à vrai dire, ce que j'espère. Ça permet d'atteindre une spécificité dans, je sais pas, la ligne mélodique et dans l'arrangement qui permet de créer un contraste plus fort dans la scène. En tout cas, je sais que la sortie de scène est plus réussie grâce à la musique originale. Ça, je pense que c'est quelque chose de très pragmatique qu'on peut dire. Quand on utilise une référence, je pense que sur le point d'entrée de la musique, on est toujours très fort. Mais que sur le point de sortie, on se retrouve toujours limité parce que, vu qu'on n'a pas les thèmes ou qu'on n'a pas la possibilité de réarranger, on va finir sur un fade-out. Et donc, on n'est pas forcément sur le mouvement le plus élégant. Mmh. Alors qu'avec la musique originale, on peut quand même négocier une sortie. Une sortie qui accompagne l'image, qui accompagne l'action et qui n'est pas un fade-out. Voilà.
Très bien, on va terminer sur cet aspect technique. Conan, donc, de Bertrand Mandico. Bien merci, Pierre.
Merci, Benoît.